Merci, merci. Donc, pour répondre à ta question, d'abord, c'est vrai que je n'ai pas commencé ma carrière par le genre, parce qu'à l'époque, ça ne se pouvait pas, vraiment, en Espagne. Et donc, j'ai fait une thèse classique en littérature sur un écrivain belge, français. Et puis, une fois j'ai obtenu mon poste, j'ai pu me consacrer aux femmes et au genre. Donc, c'est assez classique, en fait. Quand on s'assure un poste, alors on se consacre à quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et j'ai commencé avec les femmes maghrébines, francophones, puisque je venais d'études françaises. Et j'ai commencé à étudier les romancières maghrébines francophones. Et en même temps, à étudier de mon côté tout ce qui était en rapport avec les théories du genre, etc. Donc ça a été un peu autodidacte au début, puisqu'il n'y avait pas de formation en Espagne sur ça. Et puis avec une collègue qui était en études américaine, donc états-unienne, et qui venait de New York, qui avait fait un séjour à New York. Donc on s'est retrouvés, en plus c'est amusant parce que c'est une anecdote, mais moi j'étais allée à New York en touriste, et on s'est retrouvés à l'aéroport. Et alors on a fait tout un bout de chemin, on parlait, et on s'est dit, et si on créait une unité pas de recherche à l'époque, mais surtout pour transmettre aux étudiants, etc., des questions en rapport avec les femmes et le genre. Donc on a créé ça. D'abord, ça s'appelait Séminaire de littérature écrite par des femmes, donc c'était très prudent. Et l'analyse des noms, c'est très intéressant, parce que de ce séminaire d'études de la littérature écrite par des femmes, on est passé, c'était les années 90, donc c'était vraiment très tôt, pour l'Espagne. Ensuite, on est passé à un centre de recherche qui s'appelait Femmes et littérature, au singulier. Ensuite, on est passé au pluriel, Femmes et littérature. Et puis, à Barcelone, oui. Et puis, après, on est passé au genre. Ça s'appelait... On n'a pas voulu quand même oublier notre nom initial, Femmes et littérature. Donc, on a accolé d'autres choses. Ça s'appelait Femmes et littérature, genre, théorie... j'ai oublié parce que ça fait un bout de temps aussi. Genre, théorie et critique de la culture, je crois. Et puis maintenant, le centre que je ne dirige plus, puisque je suis, même si j'enseigne à Barcelone, je suis à OLEX maintenant. Ça s'appelle, il y a des sigles aussi, comme toujours, et ça s'appelle genre, sexualité. Et il y a trois choses aussi.
Et c'est elle qui.
Ou peut-être théorie, je sais plus. Bon, mais on a accolé les sexualités, disons. Donc c'est ça, c'est ce qui est intéressant, parce qu'on a commencé avec les femmes, puis le genre, et puis ça s'est additionné avec les sexualités. Ouais, je vais un peu. Bon, je vais le développer.
Aussi.
Oui, et puis
théorie,
oui, c'est vrai.
Théoria, genre, sexualité.
Oui, c'est ça. Théorie, genre, sexualité. Oui, c'est ça. Et donc. Et parallèlement, mais un peu plus tard, en 2004, on a aussi créé avec une autre université de la Catalogne, l'université de Vic, une chaire UNESCO qui s'appelle Femmes, au pluriel, Développement et Culture. Et donc ça a été aussi toute une histoire, parce que l'UNESCO, c'est vraiment... et c'est très difficile de toute la bureaucratie, etc. Mais c'était pour donner à notre centre de recherche un volet... une visibilité, mais aussi un volet plus, disons, social aussi, parce que c'était femmes, développement et culture, au pluriel. Et notre centre était très centré sur la littérature, sur les arts, donc on voulait avoir un côté plus, disons, centré vers des questions sociologiques et des questions plus politiques aussi. Et donc les deux ont fonctionné de concert jusqu'à maintenant. Les deux continuent encore. Et puis on a créé aussi un master. Je vais développer ça, mais puisque pour comparer un peu l'expérience en 2007. Donc ça a été avant on avait créé un master mais seulement en ligne. Et ça n'a pas eu beaucoup de succès parce que il n'était qu'en ligne, et c'était lié à la chaire UNESCO. Donc on a fait deux éditions. Bon, ça a eu un certain succès, mais en même temps c'était pas très. C'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants préfèrent avoir aussi la possibilité d'avoir des profs en direct, disons. Et donc on a basculé vers un modèle mixte. C'était un master qui continue encore, mais j'étais la première directrice de ce master en 2007 et j'étais dans le noyau des fondatrices. Et il a deux branches. Il a deux branches doublement, parce qu'il y a la branche professionnalisante et la branche recherche, mais en plus il y a un groupe qui est présentiel, comme on dit là-bas, et puis un groupe en ligne. Donc on peut faire toutes les deux branches, ou bien de façon présentielle, ou bien en ligne, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont loin, ou bien qui ne peuvent pas, parce qu'ils travaillent toute la journée, qui ne peuvent pas prendre des cours présentiels. Et ça a eu beaucoup de succès, par contre, cette fois-ci, parce qu'il y avait une plus grande visibilité, surtout parce que c'est un master interuniversitaire, parce que le gouvernement régional, qui a, bon, plus maintenant, mais avait l'autonomie pour les enseignements au niveau de master et doctorat. Donc, il nous a poussé, disons, parce qu'on voulait que ce soit, depuis le début, un master interuniversitaire, un peu comme tu disais de régional, dans le sens que trois universités de la Catalogne s'unissaient, mais eux, ils nous ont poussés à nous ouvrir à toutes les universités de la Catalogne. C'est sept universités publiques, pas privées. Et bon, il y a une université qui est mixte, c'est un modèle un peu bizarre, mais celle-là est entrée parce que c'est celle qui est dans la chaire UNESCO avec nous, donc celle-là est entrée. Et je dois dire, et ça c'est pour vous aussi, puisque si vous voulez faire quelque chose d'interuniversitaire, que ça a été un peu trop. C'est-à-dire que cette université, c'est la folie. Pour faire signer une convention à sept présidents d'université, c'est la folie. Et donc, je crois que ça a été une mauvaise décision finalement, et qu'il aurait fallu s'en tenir à trois. C'est maximum, parce que sinon... Et à rapport avec ça, mais du côté de la recherche, je voulais vous dire aussi, c'est un projet qui va débuter en 2019. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais je ne crois pas, parce que c'est tout récent. Le CNRS finance des réseaux qui s'appelaient avant Groupement de Recherche Internationale, GDRI. Maintenant, ça s'appelle IRN, puisqu'ils sont passés à l'anglais, International Research Networks. Le CNRS est passé à l'anglais. Et donc, on a obtenu un réseau, bon, le financement pour un de ces réseaux, et ça s'appelle traduction au pluriel culturelle et politique du genre et des études de genre. Et donc c'est un peu justement comme vous pour la Méditerranée. Nous on a fait une autre ère, disons, géographique, parce que il y a le LEGS qui est le groupe, moi je coordonne en plus le network. Il y a le LEGS, il y a Leeds au Royaume-Uni, il y a Helsinki, donc le nord de l'Europe, et puis il y a Casablanca, Zora Mesgildi. Et il y a deux universités états-uniennes, Cornell et Duke. Donc c'est un peu bon, le nord, le sud, l'est. Bon, l'est, pas tellement. L'est, c'est nous, disons. L'ouest, c'est les États-Unis. Et donc ça va débuter en 2019, et j'espère que qu'on va pouvoir faire d'autres partenariats aussi, parce que le CNRS limité à 7 les partenaires, donc on n'a pas étendu à d'autres, parce qu'on voulait profiter du RUSMEC pour aussi peut-être étendre ça à la Tunisie et à l'Algérie, mais on n'a pas pu parce qu'il a fallu choisir. Mais par contre, justement, on l'a créé, ce réseau, à partir de collaborations déjà existantes. C'est-à-dire que c'était vraiment des chercheurs avec lesquels on travaille déjà. Bon, je ne sais pas, j'ai oublié Barcelone, je crois, dans ce réseau. Ah, oui. Bon, pour moi, c'est tellement évident que... oui, c'est ça. On est sept, y inclut Barcelone. On va commencer les travaux en 2019, mais... on va se réunir déjà en automne pour commencer à travailler sur ça. Bon, mais je me centre plutôt sur les études de genre en Espagne. Je voulais faire une petite histoire, non pas des études de genre, mais du féminisme, et c'est trop, donc je laisse tomber. Mais en fait, je voulais transmettre quand même, et vous le savez déjà, puisque la plupart vous êtes historiennes et historiens, que il faut, même si je vais commencer beaucoup plus tard, mais que pendant la Deuxième République en Espagne, entre 1931 et 1939, il y a eu vraiment... non seulement un mouvement féministe important, mais aussi une réflexion sur le féminisme, sur la place des femmes. Il y a eu des publications. Et là, maintenant, tout ça est en train... Bon, pas maintenant, depuis déjà quelques années, il y a pas mal d'historiennes, dont, par exemple, une historienne qui est à Paris 8, Mercedes Yusta, d'origine espagnole, mais qui a fait sa carrière en France. Mais il y en a d'autres, évidemment, en Espagne et en Catalogne, qui sont en train de rééditer et d'étudier toutes ces apportations aussi théoriques, non seulement politiques et pratiques, de cette époque. Mais je vais sauter à une époque plus récente, puisque le mouvement féministe et du coup l'introduction des études féministes et après appelées de genre à l'université a commencé... a commencé assez tôt, en 1976, c'était l'année internationale de la femme. Il y en a certains qui peuvent pas s'en souvenir, mais moi non plus d'ailleurs. Mais c'était quelque chose dont beaucoup de gens ont mémoire. Et il y a eu les premières journées catalanes de la femme à l'université de Barcelone. Donc c'est le premier, disons, croisement entre l'université et le mouvement féministe des rues. Et je trouve, c'était des journées qui n'étaient pas de recherche, c'était des journées vraiment associatives, etc. Mais c'est très intéressant qu'elles aient eu lieu à l'université, à mon avis, parce que ça montre déjà qu'il y avait une volonté de faire un peu confluer les mouvements, le mouvement féministe ou les mouvements féministes et la recherche de l'autre côté. Cependant, en fait, les études de genre n'ont eu une présence un peu importante dans l'université espagnole qu'à partir des années 80, et ça c'est très lié au fait que le gouvernement, comme en France en même temps, les socialistes ont gouverné à partir de 82. Et tout de suite, ils ont créé des instituts qui s'appellent, et là le nom est aussi très intéressant parce que il y a l'Institut de la femme qui est à Madrid, qui est l'institut central, qui a été créé en 83, donc seulement une année après la victoire des socialistes dans les élections générales. Et puis, il y a des instituts dans chaque région ou communauté autonome, comme on dit en Espagne. Pas toutes, mais les communautés historiques, disons. Et donc, il y en a en Catalogne, en Andalousie, au Pays Basque, et dans d'autres, en Andalousie, en Galice. Et c'est très intéressant le nom de ces instituts parce que, par exemple, en Catalogne, l'institut a été créé en 89 et il s'est appelé pendant un moment Institut catalan de la femme aussi, mais elles ont changé les directrices à un moment, il y a une dizaine d'années, elles ont changé à Institut catalan des femmes. Parce que, justement, pour marquer qu'elles étaient contre cette idée, cette essentialisation de la femme. Donc ça a été très, très profond. Et il y a encore des instituts qui s'appellent de la femme et même des instituts en Galice où le Parti populaire a gouverné pendant très, très longtemps et avec une brève parenthèse socialiste qui s'est terminée. Donc là, c'est l'institut ou le département, je ne sais pas quoi, de la femme, l'enfance et la famille. Donc, c'est vraiment très marqué comme orientation politique. Oui, oui. Mais c'est la seule région où c'est au pluriel, c'est en Catalogne. Et je crois que c'est aussi un peu marquant parce que je crois qu'au niveau théorique, plus qu'à Madrid, la Catalogne a été un peu plus loin que les autres régions, que les autres zones. À Madrid, il y a c'est un peu ma théorie aussi. À Madrid, il y a des groupes et des instituts de recherche très puissants, mais en même temps, ils sont tellement proches du pouvoir politique, disons, que ça a un peu freiné leur poussée théorique, un peu, parce qu'ils ont beaucoup de financement, ils ont des diplômes, ils ont beaucoup de choses, mais En même temps, ils sont peu critiques, un peu, si je peux. Si je... Il y a évidemment des personnes. Oui, 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 évidemment, évidemment, oui. Mais ça fait un peu. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui vient avant ou après. Et il y a des personnalités qui sont très critiques, mais en tant que groupe et institut et universitaire, ils sont moins critiques, à mon avis. Bon, la périphérie, justement, quand on n'est pas au centre, c'est parfois bien aussi pour être un peu plus critique, un peu. Bon. Un peu plus libre aussi. Bon, donc justement, un autre point sur la Catalogne, c'est que c'est curieux, ça c'est peu connu. Il y a des ouvrages fondamentaux des études de genre ou féministes, comme par exemple Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui ont été traduits avant en catalan qu'en espagnol. Donc ça c'est assez bizarre quand même. C'est pas souvent le cas parce qu'il y a un public moindre en catalan qu'en espagnol. C'est évidemment, c'était l'époque du franquisme, puisque Le deuxième sexe a été traduit en 68. C'est pas tout de suite, quand même, après la publication du deuxième sexe, mais c'est très tôt, parce qu'en Espagne, la première édition, en Espagne, pas en espagnol, mais en Espagne, la première édition du deuxième sexe a été dans les années 2000. Donc, ou 90, très tard. Il y avait une édition argentine qui était plus. Mais des années 70 quand même, elle était postérieure à l'édition catalane. Donc, c'est très significatif, à mon avis, aussi, cette sorte de regard ailleurs des régions un peu périphériques comme la Catalogne. Mais je reviens aux années 80, et dans les années 80, donc, l'État, les divers gouvernements socialistes qui se sont succédés jusqu'à 96, donc ça a été une période assez longue quand même, donc ils ont commencé à financer de façon assez soutenue et assez considérable, à travers l'Institut de la Femme, les recherches en genre et, bon, en études de femmes et de genre. Et cela a entraîné, à mon avis, une sorte de dépolitisation un peu de ces études, c'est-à-dire qu'au début elles avaient commencé en accord avec les mouvements féministes, avec disons la rue entre guillemets, et alors il y a eu une sorte de divorce un peu entre des études de genre toujours plus institutionnalisées, plus financées, mais aussi plus disons fonctionnarisées un peu, dans le sens que bon, c'est la course à projet, donc il faut plaire, bon, il faut savoir ce que l'Institut de la Femme demande, ce que l'État, c'est-à-dire les axes que l'État finance et pas ceci et pas cela, etc. Donc les choix ont été stratégiques souvent, et ça a entraîné une sorte de un peu, à mon avis, une sorte de divorce, comme je disais, et puis de dépolitisation des études de genre. Je ne fais pas de jugement, je constate, c'est-à-dire je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Ensuite, évidemment, mais ça c'est général et c'est, je le dis en passant, il y a eu aussi dans les années, disons, fin des années 90, mais surtout années 2000, où tout ce qui s'est passé aux États-Unis en début des années 90, Judith Butler, Donna Haraway, tout ce mouvement, disons, autour du genre, le trouble dans le genre, etc. Tout ça est arrivé une dizaine d'années après, en Espagne, et cela a fait que les instituts et les groupes de recherche, ce qu'on appelle laboratoire, disons, ici en France, ont changé leur nom en général. Ils ont changé études sur les femmes ou des femmes ou études féministes, parce que c'était un adjectif qui était très utilisé, par études de genre, parce que c'était aussi ce qui était attendu de nous. Donc c'était d'un côté idéologique, puisque c'était les nouveaux apports théoriques qui venaient des États-Unis notamment qui l'ont fait, mais aussi parce que c'était ce qui était attendu pour avoir un projet, pour avoir un financement. Ce qui est aussi assez un peu bizarre, c'est que cette poussée de la recherche et cette institutionnalisation de la recherche n'a pas entraîné tout de suite des diplômes, de la création de diplômes. Non. C'est-à-dire qu'en 1995, il n'y avait aucun diplôme universitaire en Espagne en genre, ou en études de femmes, ou en études féministes, etc. Aucun diplôme officiel. Il y avait des diplômes, disons, c'est-à-dire émanant de centres de recherche, mais qui n'étaient pas reconnus par l'État. Donc c'était des diplômes non officiels. Et il n'y en avait pas beaucoup non plus. Donc les premiers diplômes sont nés à la fin des années 90 et surtout à partir du début des années 2000. Et notamment, il y a eu la période dorée, disons, alors entre 2004 et 2011, où les socialistes sont revenus au pouvoir après le gouvernement du Parti populaire entre 1996 et 2004. Et vous vous en souvenez parce que c'était à partir de l'attentat terroriste qui a eu lieu en 2004 à Madrid. Donc il y a eu un basculement très soudain et les élections qui étaient au bout de deux jours ont été gagnés par les socialistes. Donc, à ce moment, dans ce gouvernement qui a été, bon, deux gouvernements, mais tronqué, le deuxième, donc assez bref, entre 2004 et 2011, il y a eu une poussée très très forte pour les études de genre qui s'est traduite à la création de beaucoup de diplômes. Bon, pas beaucoup, mais quelques diplômes. Donc je vais parler brièvement, un peu pour comparer avec votre master, puisque en plus il existe encore, toujours. On a créé donc ce master interuniversitaire et interdisciplinaire qui s'appelle Master Genre Citoyenneté. Master non, en études de genre et citoyenneté ou quelque chose comme ça. Donc c'est on a accolé la question de la citoyenneté parce qu'il y avait beaucoup de gens en sciences politiques et des juristes aussi et en sociologie qui ont voulu aussi que ça s'appelle comme ça. Et donc, j'ai déjà parlé des deux branches, mais ce master a eu beaucoup de succès tout de suite de la part des étudiantes et surtout des femmes, mais quelques hommes aussi. Et à la différence du vôtre, mais c'est peut-être un signe des temps parce que je parle quand même, je ne sais plus parce que je ne participe plus à ce master, mais je crois que ça continue à peu près la même chose. Les étudiantes, pour la plupart des femmes, sont vraiment des personnes qui sont très connectées aux mouvements sociaux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont vraiment, qui veulent avoir un background théorique, mais qui sont déjà dans les mouvements féministes, queer, etc. Donc, des personnes très, très, et qui créent des liens entre elles très forts. Donc, pas du tout de concurrence, tout le contraire, plutôt. C'est plutôt nous contre les profs, disons, ou contre les institutions, mais pas, même si elles sont évidemment dans l'institution, puisque c'est un diplôme officiel. Donc c'est vraiment très enrichissant et très et ça contribue aussi à ce que je vais raconter, c'est-à-dire les effets de la crise et la repolitisation des études de genre en Espagne. La crise, par crise, j'entends deux types de crises. La première, c'est cette crise un peu du féminisme aussi, du féminisme en tant que mouvement politique, parce que comme le féminisme était tellement soutenu par l'État, entre guillemets, les mouvements sociaux féministes ont été un peu délités dans cette idée que l'Espagne était féministe, disons, non, tout le monde était féministe, donc il n'est plus question de sortir dans les rues ou de faire je ne sais pas quoi. Donc ça s'est un peu délité, et surtout à l'intérieur de l'université, les études de genre étaient vraiment, disons, très professionnalisées, très rigoureuses, mais elles avaient peu de contact finalement avec ce qui se passait ailleurs de l'université, ailleurs qu'à l'université. Et donc, je trouve qu'il y a eu une crise aussi, en quelque sorte, parce que finalement, les études de genre, si elles sont séparées de ce qui se passe un peu dans les rues et dans d'autres espaces, donc ça les dessèche, à mon avis, un peu. Donc, c'est cette crise dont je parle, mais c'est aussi la crise économique, bien sûr. La crise économique qui a touché l'Espagne de façon très, très aiguë et très profonde à partir de 2008, mais surtout à partir de 2011, puisque les effets de la crise sur les institutions se sont fait sentir quand les financements pluriannuels ont cessé. Mais du coup, en 2011, tout est fini. Il y a pas un rond pour la recherche ou pour les diplômes ou quoi que ce soit. Donc il y a eu aussi beaucoup de groupes qui étaient un peu stratégiques, qui étaient là parce qu'ils étaient financés, qui ont disparu. C'est-à-dire que seuls les groupes où il y avait vraiment des gens qui travaillaient un genre depuis longtemps ou qui étaient vraiment très motivés ont continué. Donc il y a eu une sorte de tri aussi qui s'est opéré. Il y a des diplômes qui ont disparu, d'autres qui se sont maintenus. Il n'y a pas eu de nouveaux diplômes, sauf pour justement un Erasmus+, un master international qui est à Grenade et qui a été créé il y a quelques années, mais justement parce que ce n'est pas eux qui sont le groupe principal, ils se sont accolés, disons, à quelque chose de beaucoup plus grand qui a été créé ailleurs, je ne sais plus où. Donc la crise économique, en quelque sorte, a fait que les initiatives en études de genre soient vraiment parfois le fruit d'un effort d'une lutte très personnelle. C'est pourquoi quand tu disais que telle personne est partie à la retraite et donc ça c'est fini, chez nous c'est un peu la même. Bon, ici je crois que parfois aussi, mais peut-être pas tellement. Mais en Espagne, c'est ça ce qui s'est passé. Des gens qui sont partis à la retraite ou qui sont décédés, et donc ça se terminait avec elle, mais c'était à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment une base et il n'y avait pas d'autres personnes plus jeunes qui puissent reprendre le flambeau. Mais ce qui a été aussi très bénéfique dans cette crise, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de contacts avec l'Amérique latine, du coup. Parce qu'en Amérique latine, en même temps que l'Espagne était en crise, je me souviens d'un voyage en Argentine à l'époque, de 2011-2012, et les collègues argentins disaient « Ah, maintenant c'est vous qui êtes en crise !» Parce que là, c'était le contraire. C'était le moment où il y a eu des doctorats qui se sont créés. Justement, j'appartiens à un comité scientifique d'un doctorat. Le premier doctorat en études de genre en Argentine n'a pas été créé à Buenos Aires, mais à l'université de Córdoba. Donc, il y a déjà, je ne sais pas, quelques années, ça doit être 2012 ou 2013, donc il y a déjà quelques années. Donc le contact avec l'Amérique latine, comme je disais, a été bénéfique parce qu'en plus, ce contact a fait que l'orientation des études de genre en Espagne s'ouvre à d'autres questions qui étaient présentes évidemment dans la recherche, mais qui n'étaient pas forcément croisées avec les études de genre, comme des questions d'ethnicité, de postcolonialisme ou de décolonialité qui sont tellement travaillées évidemment en Amérique latine. Et aussi toute la recherche sur les migrations, le racisme et tout ce qui est intersectionnel, disons. Donc ça, a été un peu le fruit aussi de cette crise qui a fait que les gens deviennent plus imaginatifs et qu'ils se tournent vers d'autres espaces, non plus vers l'Europe tellement, mais vers, par exemple, le Brésil, où il y a eu un moment, là maintenant ils sont de nouveau en crise, mais où il y a eu un moment beaucoup de ressources, donc on a eu beaucoup d'échanges avec le Brésil et avec l'Argentine notamment, mais avec le Chili aussi et d'autres pays, la Colombie, bon, etc. Et puis, une autre caractéristique des études de genre, et là c'est vraiment plus récent, disons, et je vais terminer avec ça, c'est tout le mouvement qu'il y a eu en Catalogne et bon, à Barcelone plus précisément, à partir des années 2000, entre je dirais 2000-2005, toute cette un mouvement qui était un peu autour à l'époque Beatriz Preciado, maintenant Paul Preciado, qui est une sorte de penseur des études queer et de tout ce qui est en rapport avec les sexualités et le genre. Et il était à l'époque à Barcelone, mais pas à l'université, mais dans un musée, le musée d'art contemporain de Barcelone. Donc là, il y a eu des gens qui étaient à l'université avec Preciado et d'autres qui n'étaient pas à l'université, même si elle est docteur et qu'elle a travaillé à Paris 8 avant de s'installer en Espagne, etc. Donc ils ont créé une sorte d'étude de genre parallèle à celle qui se faisait à la fac, au musée d'art contemporain. Donc c'était vraiment à la pointe de la théorie, puisqu'ils avaient de l'argent, l'argent du musée. Et en plus, donc ils ont fait venir toutes sortes de gens. Et ils ont été généreux en même temps, parce qu'on pouvait collaborer, les pauvres de la fac, on pouvait collaborer dans l'organisation. On apportait 500 euros et eux, ils apportaient 5000 euros ou ça, je sais pas quoi. Donc, mais quand même, on a fait des rencontres très, très intéressantes à cette époque-là. Des gens qui sont venus des États-Unis, comme Judith Butler, qui maintenant vient régulièrement, ou Donna Haraway, des gens très, très, Gayatri Spivak, des personnes vraiment de premier rang, et qui sont venus grâce à cette collaboration avec des institutions non universitaires. Et ça continue maintenant. Bon, Preciado, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il est parti du musée parce qu'il y a eu un problème de censure d'une expo qu'il avait, dont il avait la responsabilité. Et donc, le musée d'art contemporain a décliné en ce sens, dans le sens des études de genre. Mais il y a une autre institution qui a pris le relais, une institution avec laquelle je collabore beaucoup, qui s'appelle Centre de culture contemporaine de Barcelone. Vous pouvez regarder sur Internet, parce que c'est vraiment... Ils font des choses mais vraiment magnifiques. Mais moi, je suis épatée par ce qu'elles arrivent à faire. Elles ont, bien sûr... Je dis elles parce que les personnes... responsable parce que c'est un centre d'art et en même temps ça s'appelle de culture parce qu'il y a beaucoup de cycles de conférences, des cours, etc. Et ce qui est curieux, c'est que il y a 5 ans, ce centre n'organisait pas du tout de choses en rapport avec le genre ou le féminisme. Et c'était les mêmes personnes, mais quand la recherche qu'on faisait à la fac et leur intérêt pour des questions de genre a coïncidé, alors il y a eu une explosion de choses qui ont été faites et qui continuent de se faire. Et je crois que c'est vraiment des choses les plus intéressantes qui sont en Espagne en ce moment. Et alors, tu à l'heure du déjeuner, tu me disais, et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette confluence? Parce que c'est vrai que, par exemple, cette année, vous avez lu dans les journaux que pour la journée du 8 mars, il y a eu des manifestations vraiment très très massives en Espagne. C'était le pays où il y a eu des manifestations les plus massives. Et c'est pas que pour le 8 mars. Ensuite, pour le 1er mai, même les syndicats, ça c'est très curieux, ils ont fait des manifs féministes le 1er mai. Donc, et la droite était « Ah, maintenant les syndicats s'y mêlent aussi !» Parce qu'ils savaient que c'était la façon d'attirer davantage de gens aussi et d'être un peu... au jour, parce que les syndicats sont souvent très peu féministes, comme partout en général. Donc cette confluence, je crois, ou cette sorte d'apogée qui se vit maintenant en Espagne, pas qu'en Catalogne, mais en Espagne, parce que la manifestation la plus massive a été à Bilbao, je crois. Donc je crois que c'est dû à la crise, justement, qui a fait que des concepts comme le concept de précarité, de Butler et de vulnérabilité, et toute cette, des concepts qui sont en rapport avec le genre, mais aussi avec des questions très politiques et très sociétales, disons. Donc tout ça a convergé dans des mouvements féministes, je parle des jeunes, très radicalisés et en même temps très intéressés par la théorie et très intéressés par l'université, du coup. Donc maintenant, on est dans un moment assez intéressant parce que l'argent n'y est pas, non, parce que ça ne va pas changer avec le socialisme parce qu'il n'y a pas d'argent en Espagne, disons, pour l'université. Mais quand même, c'est un moment intéressant parce que ces deux crises, maintenant, je crois qu'elles ont conduit à quelque chose qui est bien, c'est-à-dire le fait que les études de genre s'en perdent, évidemment, de leur rigueur, de leur scientificité, etc., évidemment, mais elles sont repolitisées un peu, elles sont beaucoup plus en accord avec ce qui se passe en Espagne, surtout dans les jeunes générations. Parce qu'à un moment, on avait l'impression, et c'était très triste, qu'il n'y avait que des gens, et des femmes notamment, très âgées, je veux dire, bon, je m'y inclus, hein, à partir de 50 ans, et qu'il n'y avait pas d'autres femmes jeunes qui s'intéressaient aux études de genre. Et là, il y a beaucoup de jeunes femmes, très jeunes même, qui s'intéressent aux études de genre. et aussi des hommes, ce qui est assez nouveau parce que les hommes en Espagne étaient tous ou presque contre. Malheureusement, si je peux dire, parce que c'est pas bon, vous me comprendrez quand je m'expliquerai. Malheureusement, la plupart des étudiants et des collègues qui s'intéressent aux études de genre, c'est par le biais des études homosexuelles et queer. Mais et je dis malheureusement, non pas parce que je sois contre ces études, évidemment, tout le contraire, mais parce que je trouve que les hommes hétérosexuels ou les hommes qui s'intéressent au genre, mais pas par ce biais, je ne comprends pas pourquoi ils ne s'intéressent pas au genre. Parce que, par contre, les études sur les masculinités, on jouit d'un certain écho, et elles ont un certain écho en Espagne. Donc là, oui, il y a quelques hommes qui y sont aussi, mais c'est le seul réduit où il y a des hommes, hein, genre. Les études sur les masculinités, les hommes, je veux dire, qui n'est pas passé par le biais des études homosexuelles ou queer. Et ça, c'est une des questions qui me préoccupe pour l'avenir, parce que je trouve qu'il faudrait attirer beaucoup plus d'étudiants, parce que c'est très, très féminisé, les études de genre. Bon, un peu partout, mais en même temps, en Espagne, je crois que c'est... Et ça, je crois que ça a à voir avec... et ça, on l'a vu malheureusement dans les faits divers, même des derniers mois, des dernières années en Espagne, il y a encore une virilité, un idéal de virilité très, très contraignant en Espagne, même si ça ne se voit pas tellement, mais je crois que ça continue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collègues ou d'étudiants qui ont peur d'être pris pour des homosexuels ou je ne sais pas quoi, s'ils sont dans les études, s'ils s'approchent des études de genre. Et même si ça ne se dit plus, parce que c'est évidemment c'est pas quelque chose qui se dit, parce que l'Espagne est politiquement correcte, disons, mais je crois que ça pèse encore. Et je crois que c'était une des choses qu'il faudrait, je ne sais pas comment, mais que le jour où il y aura beaucoup plus d'hommes hétérosexuels ou qui ne s'affichent pas comme homosexuels dans les recherches, dans les études de genre, je crois que ça sera un jour où l'Espagne aura un peu changé. Je ne suis pas sûre qu'elle ait changé tellement. Je ne sais pas, tu crois? Je ne crois pas qu'il y ait cette... je crois que ce n'est pas la même chose, non. Quand je dis ça, les gens me répondent toujours « Oui, c'est comme pour la crise. Oui, en France aussi, mais c'est, l'Espagne, c'est différent. »
C'est différent, oui. C'est plan, j'ai l'impression.
Exactement.
C'est plutôt « Nous, on est des mecs, on ne va pas s'occuper d'histoire de femmes. »
Oui, c'est dégradant, c'est pas valorisant.
Moi, je pense que c'est comme un prisme méditerranéen.
Non, peut-être, oui.
Autour des questions du genre et autour des questions de virilité. Et il me semble qu'il peut y avoir
t'as raison, un peu de
ouais. sur la mise à distance des études de genre, hormis sur les questions de virilité ou de masculinité.
Ouais.
Dans les hommes hétérosexuels, d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'histoire de la virilité, c'est quasiment que des hommes qui ont engagé, si on a vu Roche, Quentin, etc.
Ouais.
C'est intéressant quand même, hein, l'histoire de
la virilité. Oui, oui, c'est.
Et donc, il y a une sorte de partition qui se fait,
oui.
Et un peu comme en Espagne, hein, autour de ce qui va.
Il y a plusieurs femmes qui ont contribué à l'histoire.
Non, qui ont contribué, même... oui, mais pas dirigé, oui.
Et les chefs.
Les chefs et
les chefs.
Oui.
Autour de la question de la virilité.
Claudine, je crois que tu avais quelque chose à dire.
Non, moi c'était une parenthèse. C'est que, à côté de ça, il me semble qu'il y a des contradictions en Espagne comme partout.
Ah oui.
Puisque, au niveau de la procréation assistée, vous êtes en avance par rapport à la France.
Tu as bien.
Ah oui, en effet, oui, et ça a été le fruit de ce gouvernement. Justement, le gouvernement, je crois que ce sera la même chose pour Pedro Sánchez, c'est-à-dire que puisque Zapatero tout d'un coup s'est vu sans moyens pour faire des politiques vraiment sociales, etc., parce que la crise était là, donc du coup il a pris des mesures, disons, de gauche, mais sur le plan sociétal, et donc, mais c'est vrai que l'Espagne, et c'est-à-dire les Espagnols, disons, ont pris cela d'une façon beaucoup plus beaucoup moins polémique que la France, parce qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup moins de manifestations contre, par exemple, le mariage pour tous en Espagne. Il y en a eu pratiquement une qui a été montée par l'Église catholique en plus, et donc la conférence épiscopale à Madrid, qui a été très, évidemment, très grande. Il y a eu 1 million de personnes qui se sont manifestées, mais ensuite elles sont rentrées chez eux parce que, en plus, c'était surtout des gens qui venaient de certaines provinces très conservatrices de l'intérieur de l'Espagne. Après, il n'y a pas eu de... Et puis, tout naturellement, l'adoption et de la part de couples du même sexe, l'adoption ou la PMA pour les lesbiennes, etc., tout ça est passé presque sans polémique. C'est-à-dire que même si après le Parti populaire a essayé de réduire, c'est très contradictoire comme toujours, parce que il y a eu ce ministre dans le Parti populaire qui a essayé de limiter, mais vraiment presque interdire l'IVG, et parce que c'était même une loi plus dur qu'à l'époque de Franco, parce que bon, à l'époque de Franco, évidemment, vous me direz, il n'y avait pas d'IVG. Non, il n'y avait pas d'IVG, mais les médecins, c'était toléré que les médecins, quand il y avait une malformation très grave du fœtus, qu'ils fassent une IVG à la femme. Et là, ils voulaient interdire même ça, c'est-à-dire que même en cas de malformation très très grave, il fallait porter à terme la grossesse, malformation dans le sens que l'enfant allait mourir en naissant. Donc il fallait, selon cette loi qui n'a jamais été promulguée, parce qu'il a dû démissionner, parce que même à droite, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Il était un ministre de l'Opus Dei, et il a voulu donc, il a misé sur ce fait, mais l'Opus Dei est minoritaire quand même en Espagne.
Oui. Mais enfin, ceci.
Tu parlais de Méditerranée, c'est toujours difficile de savoir. L'imprégnation méditerranéenne, pour moi, c'est une imprégnation éminemment, c'est aussi souvent religieuse. Religieuse, les différentes religions. Et en ce qui concerne l'Espagne et l'Italie, par rapport aux autres pays d'Europe, il y a une empreinte de l'Église qui est extrêmement forte, comme à Malte.
Oui.
Et qui a duré très très longtemps. Et tu parlais tout à l'heure de vous, je ne sais pas si on
dit. Oh non,
vous,
de
la parenthèse socialiste.
Oui.
Hein, où il y a eu tout d'un coup un bouleversement. Mais j'ai lu des études comme quoi le féminisme était très mal perçu. C'était plutôt une politique, c'était de la stratégie pour montrer que les socialistes étaient extrêmement progressistes, mais que les hommes,
ah oui,
ça n'avait pas changé. Ce qui fait, ouais, dès qu'ils sont partis, ça a été de nouveau la suppression, oui, de tous les droits des femmes.
Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est-à-dire, ouais, que c'était un gage de progressisme. Et non, mais en même temps, comme les socialistes ont été obligés de mettre des femmes au pouvoir, oui, donc ces femmes, parfois, elles étaient féministes. D'autres fois, non, mais des fois, elles étaient féministes. Donc, elles ont fait des politiques féministes jusqu'à un certain point. Mais c'est vrai que la mentalité... je crois qu'elle est en train de changer, parce que, bon, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé avec ce procès. Il y a eu un viol en Réunion il y a deux, oui, ans, pendant une de ces fêtes populaires, elle s'en fait au nord de l'Espagne, et il y a eu la sentence qui a été donnée il y a deux mois, je crois, du coup, on a vu vraiment le clivage aussi entre la droite et, non pas la gauche, mais entre la droite et, disons, la plupart des gens en Espagne, même si les gens ensuite votent à droite, mais c'est pour d'autres raisons, plutôt économiques, etc. Mais je veux dire, la droite idéologique a commencé à dire, oh oui, c'est vrai, elle le voulait, ou elle l'a provoqué, ou ce type de discours. Et par contre, une grande majorité de la population, même si, je ne sais pas s'ils avaient voté le Parti populaire ou je ne sais pas quoi, mais une grande majorité était scandalisée. C'est-à-dire, elle se disait, bon, mais c'est pas possible que ça soit, ça ne soit pas un viol. Il y a eu des manifestations, mais pas que des féministes. Il y avait, peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui ne sortaient pas dans la rue, qui n'allaient pas aux manifestations, mais moi, j'ai vu des gens, beaucoup d'hommes, par exemple, des pères de famille qui se sentaient vraiment impliqués, qui se mettaient à la place du père ou de la famille de la fille, et des gens comme ça qui étaient vraiment scandalisés, qui se disaient non, non, ça a changé, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a 20 ans, ça se serait terminé comme ça, ou même pire, parce qu'il y aurait peut-être eu une absolution, mais les gens auraient dit, ah oui, mais c'est une fille, qu'est-ce qu'elle fait dans la rue à 3h du matin, c'est pas possible, elle le cherchait. Et maintenant, ce discours a été vraiment très minoritaire. Et le discours a été plus cynique parce que les gens, il y a des gens qui ont utilisé le fait de la soi-disant libération sexuelle des Espagnols, des femmes espagnoles, de dire, ah, oh, mais vous savez, c'est très normal qu'une femme veuille faire l'amour avec 5 types qu'elle vient de rencontrer et dont elle ne sait même pas le nom, etc. Donc, ils ont essayé d'utiliser ce fait qui est vrai, c'est-à-dire que les nouvelles, mais c'est comme partout que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes en matière de sexualité, mais ils l'ont changé pour discréditer la version qui est vraiment, parce qu'en plus ça a été filmé par les types, donc évidemment moi j'ai pas vu le parce que en plus parce que par malheur ça a circulé dans les réseaux sociaux, mais apparemment c'est clairement un viol en réunion, ça n'a aucun sens de vouloir penser que c'est autre chose, et parce qu'en plus il y a la preuve filmée, et donc c'est pas une question de sa version contre leur version. Et puis il y avait, bon, vous savez, il y avait des militaires, bon, un militaire et un policier dans le groupe de ces, et ça c'est vraiment l'Espagne, les deux Espagnes un peu qui réapparaissent un peu.
Moi, ce qui me marque en entendant ce que tu racontes sur cet épisode notamment, je m'intéresse beaucoup en tant que juste citoyen, quelqu'un qui a vécu aux États-Unis quand j'étais enfant, donc je m'intéresse beaucoup aux États-Unis. Donc, je lis beaucoup de la presse que j'arrive à lire sans avoir à payer américaine, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est payant. Enfin bon, et ce qui me choque, c'est justement le décalage entre le discours tenu par une droite idéologique très dure, parce qu'il y a la même aux États-Unis, hein, même si elle n'est pas catholique, elle est protestante, c'est très dur, c'est très très dur, sur la sexualité notamment des femmes, c'est affreux. Enfin, une vision qui est archi rétrograde, ils passent tout le temps à toutes les chaînes partout. Ils sont archi minoritaires, je pense, aux États-Unis, l'immense majorité de la population rejette leur point de vue sur la sexualité, et pourtant ils gagnent les élections. Mmh. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas. Laura,
Oui, c'est vrai.
C'est là que j'ai vécu enfant.
Parce qu'il y a les différences entre l'espace urbain et l'espace plus rural, dans le Midwest. Il y a. Et les groupes qui sont de plus en plus forts de passer les lois, les règles comme le passé. Donc on ne peut pas avoir une abortion dans l'État d'Alabama maintenant, je pense. Ils ont passé les règles qui sont contre le Supreme Court. Mais en même temps,
Oui, c'est vrai que comme chaque État a des lois différentes, c'est un peu. On s'y perd, n'est-ce pas ?
C'est le poids des États conservateurs.
Oui.
Et de la ruralité.
Oui, mais qui sont les États conservateurs.
C'est aussi le poids de la marginalité, c'est-à-dire aussi dans des régions qui sont qui sont marginalisées par rapport à une certaine forme, à de la mondialisation, tu sais, de certains géographes.
C'est vrai.
On en a, mais je ne pense pas que les Américains ruraux se perçoivent comme tels. Ils pensent qu'ils forment une tradition.
Oui, non, mais qui aussi, à mon sens, un sentiment d'être menacé aussi. Enfin, je sais pas, mais c'est que je regarde ça.
Oui, je crois, oui.
Il y a aussi cette vieille grille de lecture sur centre et périphérie
qui a dominé dans les années 70 en géographie, etc., qui devrait être aussi peut-être retravaillé, d'ailleurs, que certains géographes retravaillent, y compris pour la France, c'est-à-dire toutes les zones périphériques. Mais moi, j'habite dans la périphérie de Nice. Et la périphérie de Nice, c'est là où il y a le conservatisme le plus crasse qui soit. Enfin, tu vois, quand on regarde tout ce vote Front National, etc., ou ce lieu en France qui sont les lieux les plus conservateurs, c'est quand même beaucoup lié à une forme de périphérisation, de mise à l'écart de ce qui semble être la modernité, la mondialisation, etc. Enfin, il y a aussi cette lecture-là. Donc, là, on n'est pas dans la, au cœur de la ruralité, parce que c'est aussi juste un peu de la périphérie urbaine. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là d'intéressant. Et quand on regarde les États-Unis, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec des collègues qui avaient passé des moments aux États-Unis et qui venaient de France, enfin, qui ont regardé ça. Ils disaient qu'il y avait quand même ça. C'est-à-dire que quand tu regardes le monde des grandes villes, et le monde justement d'un habitat plus relâché, etc., tu as des comportements électoraux complètement différents où tu retrouves ces formes un peu de paradoxe.
Mais moi, ce que je voulais pointer, c'était plus ce que disait Martha, c'est-à-dire les gens qui votent ces gens-là, tout en disant quand même ce qui sur les femmes, c'est pas bien. Et là, je dis, mais.
Sorte d'hypocrisie. Oui, parce que pour eux, c'est le fric.
Je crois qu'il y a beaucoup de niveaux. Parce qu'il y a vraiment deux.
Je veux dire, comment peux-tu savoir entre leur discours et leur vote, il y a une différence. Parce qu'il faut prendre en compte aussi le système américain, qui fait que, par exemple, Trump n'avait pas la majorité des voix.
Je parle vraiment de gens publiquement. Ce genre de comportement est inacceptable, mais j'ai quand même voté pour lui.
Ah bon?
Oui.
Mais ça, je crois qu'il faut lire les. J'en parlais, je suis avec les ouvrages de l'historien américain Jonathan Israel sur les révolutions radicales et la manière dont il construit un schéma conceptuel de toutes les révolutions du 18e et du 19e autour de la révolution américaine comme révolution radicale. C'est-à-dire l'idée que la révolution américaine est porteur de radicalité. Il faudra s'attendre toujours de la part des Américains de produire de la radicalité au niveau des libertés, etc. Mais que c'est pas la radicalité au sens jacobin. C'est pas la révolution au sens on va éliminer les contre-révolutionnaires. On va tout d'un coup guillotiner le roi, éliminer les contre-révolutionnaires et on restera entre républicains et révolutionnaires. Non, c'est on instaure une tradition radicale et puis cette tradition radicale, elle a des contrepoids dans le système là présentement électoral, mais dans l'image qu'elle donne d'elle-même dans le monde, elle reste radicale. Donc on peut percevoir le féminisme américain comme peut-être le féminisme le plus avancé du monde, et en même temps il peut y avoir un système de contrepoids dans les États-Unis qui fait que c'est ce qu'on vient de dire. C'est tout le problème de la radicalité américaine. Alors moi ça me paraît intéressant. D'autant plus que c'est quand même des thèses, les thèses d'Israël, qui sont pas très bien comprises par les Européens. Ils ont du mal à comprendre. Pour eux, la radicalité, c'est pas ça. Alors que dans les pays anglophones, quand vous parlez de Jonathan Israel, parce qu'en plus, il a écrit des ouvrages de 600, 800, 1000 pages énormes, il est considéré vraiment comme... comme le meilleur analyste des catégories politiques, des révolutions dans tous ces pays, y compris dans les pays d'Amérique latine. Donc c'est compliqué. C'est là la différence.
C'est très socio-économique là-dedans aussi. Et que, enfin, moi j'allais dire, il y a deux Amériques, mais ce n'est pas les côtes et le milieu. Ouais. C'est vraiment étonnamment, si on ne connaît pas les États-Unis, on est étonné, mais en fait, c'est tout à fait historique qu'il y a des parties du milieu des États-Unis qui est pensé être conservateur ou conservatrice, mais en réalité, qui sont parfois plus progressistes. Et le Minnesota, par exemple, il y a des endroits qui sont vraiment très progressistes et qui votent, disons, démocrates. Mais ces dernières élections en particulier, c'était quelque chose de vraiment très spécial. Parce qu'il y avait, enfin, mis à part le problème du choix du candidat ou de la candidate démocrate, ça c'était très problématique, c'était magouille. Mais le fait qu'il y avait un choix entre quelqu'une qui représentait vraiment, pour beaucoup de gens, l'élite. Et il y a Trump qui représentait, même si ce n'est pas le cas, mais il représentait un peu Monsieur Tout-le-Monde, et qui allait se battre pour le pauvre blanc qui se trouve au fin fond d'un trou économique et qui n'a pas à quoi se nourrir ou qui n'a pas logé. Mais c'était ça aussi, c'est intersectoriel, c'est socio-économique. Enfin, ces dernières élections, vraiment, c'est quelque chose de très spécifique. Je veux dire qu'il y avait un colloque, le Fac de droit, qui a été organisé juste avant les élections, et donc septembre 2016, c'est ça, là. Et c'était les spécialistes de l'évangélisme américain. Et bon, je n'ai pas participé, je suis allée écouter en tant que citoyenne intéressée. Et c'était terrifiant. C'est terrifiant parce qu'il y avait un grand spécialiste qui était en poste prof à Washington, mais dans une fac. Et il a dit que, à ce moment-là, personne ne croyait que Trump allait être élu. Enfin, beaucoup de gens ne croyaient pas. Et lui, il a dit détrompez-vous vis-à-vis de Trump, parce qu'il va avoir plein de gens qui vont voter pour lui contre la candidate démocrate, parce qu'elle a vu bon, problème de femmes, problème de misogynie, mais parce que vraiment elle représente encore la continuité d'une élite qui sait trop bien parler, qui sait trop bien, qui est trop internationale. Et il dit quoi qu'il soit, non, lui il était convaincu selon ses études, les sondages, que Trump allait être élu. Mais pour des questions identitaires de soi, pour des questions qui n'avaient rien à voir avec...
Oui, moi, en fait, je voulais poser ma question. Bon, je pense que vous ne doutez pas que, dans ce que vous faites, vous exprimez une certaine radicalité.
Moi, personnellement, vous voulez dire
personnellement, dans les études de genre que vous proposez.
Oui, pourquoi pas.
Cette radicalité, vous la percevez selon... Est-ce que vous la percevez selon un modèle européen qui est largement dominé par le modèle de la Révolution française, ou est-ce que vous le percevez sur un modèle anglo-saxon, les références aux valeurs des pères fondateurs, des choses comme ça Ou est-ce que vous êtes entre les deux? Parce qu'il y a quand même toutes les révolutions sud-américaines qui sont dans une situation très ambiguë par rapport au modèle anglo-saxon, puisque la thèse d'Israël, c'est qu'en fait, ils n'appartiennent pas au modèle européen révolutionnaire français, ça paraît. Alors, est-ce que, quand vous travaillez en histoire du genre, quand vous échangez avec, par exemple, avec des féministes américains, est-ce que vous ressentez une spécificité européenne ou méditerranéenne, puisqu'il est question de la Méditerranée, ou est-ce que vous insérez dans une radicalité commune ?
Oui, je comprends. J'ai jamais pensé à la radicalité en termes de américain européen, mais par rapport à cette... C'est vrai que dans les études de genre, il y a quand même, par rapport à l'Espagne, je veux dire, il y a une sorte de camp qui s'inspire plutôt de sources européennes et notamment françaises, et par contre l'autre camp qui est majoritaire s'inspire plutôt de sources anglo-saxonnes, disons, ou anglophones, et notamment états-uniennes. Donc et puis il y a l'apport de l'Amérique latine qui est venu plus récemment, donc qui fait un peu, qui déjoue un peu ce binarisme. Mais en fait, personnellement, si je dois dire, je ne me situe ni à un côté, ni d'un côté ni de l'autre, parce que en réalité, moi, je suis très, disons, francophone par ma spécialité, puisque j'étais en études françaises, donc j'ai beaucoup lu, disons, les féministes ou pas féministes, mais je veux dire les théoriciennes françaises. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur et avec Hélène Cixous, mais
Par contre, beaucoup de mes travaux s'inspirent plutôt des théories états-uniennes, de gens qui sont aux États-Unis, Butler, Haraway. Donc, je pense que justement par notre position périphérique, on peut quand même ne pas être dans un des deux camps, parce que c'est un peu ça aussi dans beaucoup de pays, et aux États-Unis aussi. C'est-à-dire il y a les gens qui se situent vraiment sous l'influence francophone ou francophile, je sais pas quoi, et d'autres qui ont des sources beaucoup plus, bon, le féminisme matérialiste, tout ça. Et donc, et je crois, comme j'ai dit, que mais par contre, je ne vois pas, dans les études de genre, je ne vois pas vraiment, je parle de la théorie, un ensemble théorique qui serait méditerranéen. Je ne vois pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux, il y a des situations qui se ressemblent, il y a peut-être des histoires qui se ressemblent, mais au niveau théorique, je ne vois pas qu'il y ait vraiment qu'il y ait eu jusqu'ici un apport vraiment à la théorie.
Alors, en revanche, je pense que, et notamment quand tu disais de l'apport de la langue latine, ce que je trouve intéressant, sur l'espèce de convergence qu'il peut y avoir, par exemple, entre le Brésil et l'Inde, suite à la subalterne
studies. Exactement, oui.
C'est-à-dire que, autant, mais ça aurait pu être la Méditerranée, pour le coup, à la fois le sud et peut-être toute la rive, on va dire, turco-grecque, enfin ça. Mais c'est pas là.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on est encore dans des rapports qui sont des rapports, et par exemple, la structuration des Ramus plus, c'est intéressant.
Ouais.
Parce qu'il y a d'un côté les formateurs et de l'autre les formés, donc il y a quand même quelque chose de néocolonial, à mon sens. Ah ben c'est ça. Et justement, je trouve que ce qui est intéressant pour l'Espagne, pour ce que j'en vois, et notamment par l'art, c'est la puissance des performeuses et des hyper transgressives dans la performance artistique, dont les influences sont aussi beaucoup liées.
Oui.
Ah, mais détrompe-moi.
Non, t'as
juste... Moi, la vérité, notamment au Brésil, et je trouve qu'il y a des choses qui sont faites là. Brésil, Argentine, enfin, il y a des choses qui ont circulé. Notamment
pour les collectifs. Oui, en effet. Et puis, je n'ai pas eu le temps, mais si on avait eu le temps, je vous aurais cité des ouvrages et des noms de personnes, notamment, en plus, justement, des femmes qui se sont trouvées à Barcelone à un moment donné, c'est-à-dire des années 2000, 2005 et à peu près, et puis c'est 2010 maximum. Bon, j'ai cité Preciado, qui est espagnole, mais il y avait d'autres femmes qui venaient de pays de l'Amérique latine, mais qui se trouvaient à Barcelone par hasard. Donc il y a eu ce mouvement et qui a été appelé. Et par contre, elles ont choisi de ne pas s'appeler, de ne pas s'identifier sous l'étiquette queer, parce qu'elles l'ont trouvée trop états-unienne, justement, et puisqu'elles venaient de l'Amérique latine. Et là, il y a une vision très très forte contre parce que bon, l'impérialisme espagnol est un peu plus oublié. Bon, il est un peu plus vieux et comme l'Espagne à l'époque était en crise et pas certains pays latino-américains, donc les rapports de force étaient un peu inversés en quelque sorte. Mais par contre, pour ne pas s'identifier avec cet impérialisme états-unien, donc elles ont choisi de s'appeler transféministes. Il y a eu un manifeste transféministe, et là évidemment je n'en ai pas parlé, mais c'est très très significatif, comme ce qui se passe en France aussi, ou du moins à Olex, on le voit très de façon, oui, non, mais pas que, avec les étudiants notamment. On a pas mal, je veux dire, on a un 10% d'étudiants trans, c'est beaucoup, je trouve, parce que 10% c'est pas le représentatif de la société. Et à Barcelone et en Espagne, ça s'est produit un peu aussi, c'est-à-dire que la poussée des mouvements trans a été vraiment très très forte, et donc elles ont choisi de s'appeler transféministes, mais pas parce que elles sont trans ou des hommes trans ou des femmes trans, mais parce que c'est le trans astériste, donc c'est vraiment le genre déconstruit et le genre vraiment éclaté, mais c'est très très intéressant. Et ce sont des jeunes femmes notamment, et parfois des femmes trans aussi. Et elles ont publié un collectif en 2013, et puis d'autres ouvrages ensuite qui sont intéressants.
Moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de vidéos
Oui, c'est ça. Ce sont des performeuses, comme ouais. tu dis. C'est-à-dire, elles ont peu écrit, mais elles ont beaucoup plus posté des vidéos, ont fait des... Et puis, c'est pourquoi aussi les centres d'art ont tellement d'importance aussi, parce que tout ça passe par les centres culturels, les centres d'art, pas que sur Internet aussi. Souvent, ça se produit dans des centres d'art, et c'est de la performance, mais accompagnée de conférences ou d'un cours. Et là, c'est ce centre de culture contemporaine de Barcelone a maintenant est en train d'avoir un rôle très très important, à mon avis. C'est un peu triste en même temps que on doit avoir recours à des institutions externes, à l'université, parce que ça montre aussi l'état dans lequel la crise a laissé l'université espagnole. C'est-à-dire, elle est presque dans le coma, disons. C'est horrible. Je ne sais pas si elle va se réveiller.
On voit aussi qu'en France, progressivement, il y a un décalage de ces prises de parole. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez lu, elle a expliqué sur la question du bullying. Je suis fascinée par ce mouvement. Vous regardez, c'est très intéressant ce que peut être le bullying en termes de questionnement du genre, etc. C'est un mouvement qui est à New York dans les années 90 et qui mêle à la fois les questions de genre et les subaltern studies, puisque c'est plutôt issu de la communauté afro-américaine. Et c'est très intéressant de voir comment il y a une prise de parole politique sur le genre de l'université qui va nourrir aussi de la recherche et qui en même temps est une parole, comment dirais-je, qui se veut aussi une parole d'expertise, quoi, qui dénie à l'université aussi une certaine expertise. Mm-hmm. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant, mais je pense qu'on a vraiment des questions globalement à se poser de ce point de vue-là, sur la place de l'université, parce que à force d'avoir été institutionnalisé, d'avoir institutionnalisé les étudiants, on est en train de vider leur portée critique, et c'est d'ailleurs une des grandes questions qu'on se pose en Bruxelles aussi, de maintenir une pensée critique quand on est subventionné par le Fonds européen ou nationaux qui ne veulent surtout pas qu'on reste dans la pensée critique, et la pensée critique, elle se développe par ailleurs. Et c'est vrai que la chance qu'il y a eu à Barcelone, c'est ce centre-là.
Oui, c'est vraiment... Ce sont des centres publics, mais en même temps, c'est vrai que les pouvoirs publics... Bon, c'est vrai que ce sont des centres qui dépendent, pour le Centre de culture contemporaine, ils dépendent de la mairie. Et la mairie a été dans les mains de la gauche, pas toujours, mais bon, les socialistes, qui sur le plan culturel ont fait des politiques de gauche à Barcelone. Et puis maintenant, avec cette maire qu'on a, je ne sais pas pour combien de temps, parce qu'il y aura les municipales bientôt, mais qui est très très à gauche là et très féministe aussi.
À bientôt. C'est
bien
de t'avoir.
Oui,
on espère que tu vas revenir très vite aux archives.
Oui,
pouvoir te revoir.
Merci. Oui.